Bonjour Monseigneur Ulrich.
Bonjour Élise.
Et bonne année à vous. On entame cette nouvelle année 2020 avec de nouveaux projets pour le diocèse de Lille dont vous êtes l'archevêque, Monseigneur Ulrich. 2020, elle ressemblera à quoi cette année? Vous souhaiteriez qu'elle ressemble à quoi?
Je voudrais dire tous mes voeux aux auditeurs pour commencer, des voeux d'une sainte année, voilà, d'une année qui est marquée par la grâce de Dieu, voilà, et que chacun d'entre nous, les auditeurs bien sûr, et tout le peuple de Dieu, et tous ceux qui écoutent cette parole, même s'ils n'ont pas le sentiment de faire partie de l'Église, voilà, à eux aussi, ces vœux s'adressent pour qu'ils vivent une année qui ne soit pas simplement une accumulation d'activités, mais une année à la fois de projets et puis une année où on reçoit. On reçoit des autres, on se reçoit les uns des autres et dans la grâce de la foi, pour ceux qui la partagent, on reçoit tout de Dieu, voilà, et ce que l'on vit, c'est lui qui nous le donne et avec la charge d'y trouver un sens profond, voilà. Donc ça, je pense que c'est une invitation forte qui nous est faite régulièrement de se mettre dans la condition de recevoir ce que nous vivons.
Reconnaître le don de Dieu.
Reconnaître le don de Dieu. Enfin, c'est moi, je suis toujours très marqué par l'un des premiers versets de l'évangile de Saint Jean. Et tous, nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Voilà. Je crois cela beaucoup. Tous, nous avons reçu de lui. Et quand je dis tous, je pense bien sûr aux croyants, mais je pense aussi aux autres qui n'arrivent pas à croire ou qui ont du mal avec cette conception de la vie qui dépend de Dieu et nous dépendons de lui dans la liberté. Hein, voilà.
Qui n'arrive pas à croire, selon vous, ça demande un vrai effort de croire.
Non, il y a des gens pour qui ça ne s'impose pas du tout. Une présence divine n'est pas quelque chose à quoi ils peuvent se rendre. Voilà, et non pas se... Ils sont certainement heureux de vivre, ils mènent certainement leur vie avec droiture, mais ils n'arrivent pas à concevoir que nous soyons dans cette dépendance, parce que probablement cette dépendance les incommode, le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, probablement, mais ils n'arrivent pas à accepter cette dépendance, que moi je conçois comme une dépendance vécue dans la liberté, c'est-à-dire cette dépendance ne m'enferme pas, mais au contraire elle m'ouvre. Voilà.
C'est une année, Monseigneur Ulrich, qui commence sous le signe de fortes contestations sociales. Comment vous regardez ce qui se passe, vous interprétez ce qui se passe en ce moment, dans les rues?
Eh bien, d'abord comme quelque chose qui est compliqué à percevoir. Voilà. Ce sujet qui suscite les contestations, les manifestations, les grèves,
la réforme des retraites,
c'est-à-dire donc la question de la modification de la conception même de la constitution des retraites, est un sujet que je trouve compliqué. Difficile à saisir, avec des enjeux certainement très importants, mais l'enjeu, c'est un enjeu d'avenir pour la plupart des personnes. Moi, je suis à l'âge où on est retraité normalement, et donc je sais bien que les personnes retraitées déjà ne vont pas voir modifier leur système, c'est évidemment les autres, et donc les plus jeunes. Et pour qui cette entrée dans un processus comme celui-là est une entrée insécurisante, parce que ça concerne leur avenir et la troisième partie de leur vie. Et donc ça, je comprends bien que ça suscite de l'anxiété tant qu'on n'a pas vu les effets de la chose. Et peut-être que n'ayant pas vu les effets de la chose, on en a très peur. Voilà. Donc je comprends cela comme cela. Alors il y a des aspects techniques dont je dois vraiment dire qu'ils m'échappent, et non pas parce que je suis prêtre et que je ne connaîtrais rien à la vie, mais parce que le sujet est d'une technicité quand même assez avancée. Et qu'à le voir, les négociations sont complexes. Alors, on voit bien à la fois le désir d'unifier un processus pour que il soit plus juste, et on voit bien aussi que il ne peut pas être, l'unification ne peut pas être simplement une espèce de généralisation, quelque chose de moyen, parce qu'il y a des situations des uns et des autres qui sont des situations très diverses. Et je pense par exemple que le critère de la pénibilité du travail, c'est quand même un point qui est clair, mais cette notion de pénibilité a besoin d'être vraiment éclairée à tous les points de vue. Bon, donc ça, c'est quelque chose que je retiens, la question de la pénibilité. Mais je retiens aussi, très bien, le projet d'unifier pour donner plus de justice et plus de clarté, de clarté sur le sujet.
Donc vous comprenez les personnes qui descendent dans la rue, je
comprends à la fois les personnes qui descendent dans la rue, mais je comprends aussi le projet de rendre plus cohérent l'ensemble et plus lisible. Hein. Donc je perçois cela. C'est pour ça que je trouve que c'est très complexe, parce que j'entends les arguments d'un côté et de l'autre, les arguments qui sont dits de façon très explicative, je les comprends. Les arguments beaucoup plus, passionnels, je les perçois comme la crainte de l'avenir, mais peut-être qu'ils ne sont pas complètement raisonnables. Voilà. Donc, j'entends tout cela.
D'une inquiétude générale. Hein.
Oui, je pense, oui. Et comment en sort-on? Et évidemment, on en sort en essayant de négocier, d'avancer les uns vers les autres, de se comprendre un peu mieux et de ne pas s'accuser mutuellement des plus noirs desseins. Je pense qu'il y a un objectif de fraternité et de confiance mutuelle dans tous ceux qui doivent avoir partie à la discussion. Il faut qu'il y ait une sorte d'accord minimal de confiance, enfin, c'est-à-dire on cherche ensemble la sortie de crise.
Ça, c'est le regard chrétien qu'on peut porter sur...
Ben, je pense, oui. Le pape a invité beaucoup à cela dans son message du 1er janvier. Sur la paix, en disant on ne peut pas être. Alors ceci s'applique aussi à la situation internationale. C'est-à-dire on ne peut pas être dans un système simplement d'accusations mutuelles et réciproques, de mauvaise foi, enfin, etc. Si on est dans ce trip-là, enfin, ça n'ira pas. Il y a une fraternité à essayer de construire. Et aujourd'hui, manifestement, alors c'est pour ça que j'élargis un peu, manifestement entre les peuples, comme à l'intérieur des peuples, parce que ce qui se passe au Venezuela, ce matin, on entend des choses encore, ces jours-ci, on entend des choses encore au Venezuela, en Syrie, on parle un peu moins du Brexit et de l'Angleterre, mais c'est pas très brillant, enfin, etc., dans d'autres pays d'Europe et dans d'autres pays du monde, l'Irak, l'Iran, enfin, etc., on est, et aux États-Unis, on est dans cette situation où on voit monter le régime de violence, d'intolérance, d'incompréhension et d'absence de confiance dans le partenaire auquel on est opposé. Donc je crois que vraiment le refus de la vengeance, le refus de porter sur l'autre un regard négatif, c'est quand même une grande urgence. Et donc il faut espérer le désir d'une unité plus forte.
Monseigneur Ulrich, d'abord d'un autre sujet avec cette volonté du pape François d'instaurer chaque troisième dimanche du temps ordinaire le dimanche de la parole,
oui.
Le retour à la parole. On a tendance à oublier la parole ou à passer à côté que le pape veuille qu'on y revienne.
Mais c'est-à-dire il fait vraiment de son pontificat un pontificat où la parole de Dieu doit être le critère essentiel de toute évangélisation. Hein, c'est-à-dire que l'évangélisation n'est pas une conquête, l'évangélisation c'est l'offre, c'est l'offre de la présence du Christ et de la reconnaissance de la présence du Christ qui vient sauver l'humanité tout entière. Et ça se vit à travers la personne du Christ qui est parole de Dieu. Et donc, évidemment, les chrétiens célèbrent la parole de Dieu tous les dimanches. Et donc, en faisant un dimanche de la parole de Dieu, on ne fait rien d'autre que de faire...
Ce sera la même liturgie,
c'est la même liturgie. Mmh. Mais se dire que ce qui fait notre unité à nous croyants, ce qui fait notre dynamisme à nous croyants, ce qui fait notre désir d'être missionnaire à nous croyants, c'est la parole qui nous a été révélée en la personne de Jésus. Et donc, une fois de temps en temps, comme il y a un dimanche... du Saint-Sacrement, par exemple, après Pentecôte, le dimanche de l'Eucharistie, comme il y a d'ailleurs le Jeudi Saint, la fête de l'Eucharistie. Voilà. Donc avoir une fête de l'Eucharistie au Jeudi Saint, une fête de l'Eucharistie quelques dimanches après Pentecôte, ça n'est pas, j'ai dit, contradictoire avec le fait qu'on le célèbre tous les dimanches. Voilà. Et la même chose... qu'on écoute la parole de Dieu tous les dimanches n'est pas contradictoire avec le fait qu'une fois de temps en temps. Alors, cela veut dire une chose, le troisième dimanche que a choisi, qui sera donc cette année, je crois, le 26 janvier, qu'on mette en valeur par une procession, par exemple, de la parole de Dieu. Je pense aussi, nous avons dans notre diocèse un magnifique service de la parole qui propose des dizaines de parcours et qu'on peut atteindre par Internet. Hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être abonné, on n'a pas besoin de recevoir des feuilles de papier, on n'a pas besoin etc. On peut aller sur un livre biblique, sur un thème biblique, sur une question relative à la parole de Dieu, on peut aller et trouver de la documentation pour personnellement ou en petit groupe de préférence, honorer ensemble la parole de Dieu et s'en laisser nourrir. Voilà. Eh bien, c'est deux choses. Le service de la parole et au cours du dimanche de la parole, mettre en valeur par une procession, par un encensement, par un éclairage de bougies, enfin, etc. Une mise en valeur du livre de la parole de Dieu. C'est pas un livre... comme un livre, une idéologie, le livre de la parole de Dieu, c'est le Christ. Voilà. La parole de Dieu, c'est le Christ. Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Voilà. Donc, c'est extrêmement important de vivre ces choses et de mettre en valeur la parole de Dieu en ce troisième dimanche du temps ordinaire, avec une espèce de solennité pour dire c'est le Christ. Quand nous disons, quand le prêtre ou le diacre à la fin de la lecture de l'évangile dit « acclamons la parole de Dieu », il ne dit pas « acclamons les mots que nous venons d'entendre », il ne dit pas « acclamons cette page d'évangile », il dit « acclamons la parole de Dieu qui est le Christ ». La preuve, c'est que le peuple est invité à répondre « louange à toi Seigneur Jésus ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Christ qui est la parole de Dieu. Et donc, mettre le Christ au cœur de nos vies, c'est se mettre à l'écoute de sa parole.
Une belle manière donc de commencer l'année, de revenir donc à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Pour cet entretien, Monseigneur Ulrich.
Bonne journée, bonne année.